Bien, bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. Michel Candussu, qui fut directeur général du Fonds monétaire international, nous fait l'honneur d'être présent parmi nous ce soir pour nous entretenir de son livre « La scène de ce drame est le monde », 13 ans à la tête du FMI, publié aux éditions Les Arènes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Candussu, votre modestie dût-elle en souffrir, je souhaite apporter ici un commentaire personnel, ce que nombreux de nos amis savent que je fais rarement. Mais je le fais pour éclairer les personnes présentes dans le salon Albert Mola. Ce qui m'a frappé, c'est qu'après ces 13 années à la tête du FMI, de voyages, de réunions, de négociations, de batailles, vous terminez votre livre par une invocation qui est l'espérance. Vous invoquez l'espérance, la sœur jumelle de la fraternité, accompagnée de trois valeurs, la responsabilité, la solidarité et la citoyenneté mondiale. De plus, toujours, vous soulignez et vous mettez en avant les qualités professionnelles de vos collaborateurs. Et ce qui est encore beaucoup plus rare, vous nous entretenez avec beaucoup de pudeur de vos échanges, de mise en commun, de vos observations avec Brigitte Candussu, votre épouse. Il y a peu de responsables qui ont ce genre de conduite de vie.
Ils ont tort.
Mais vous êtes une des rares personnes, je dois vous le dire. Alors, ce que je trouve aussi remarquable, c'est que vous avez gardé durant ces 13 années à l'esprit le souhait de, que vous avez transmis un de vos amis d'enfance, Édouard Drulot, et qui vous a dit « Surtout, fais ce que tu peux dans ton métier pour les pauvres. » Et ça, ça vous est resté à l'esprit durant toute la conduite, durant toute cette période où vous avez conduit le FMI.
C'était 3 semaines avant sa mort.
Et vous avez donc donné une orientation déterminante au FMI qui est en fait à savoir que la réduction de la pauvreté devait être le centre de la stratégie du FMI. Je pense que c'est ça qui vous a animé profondément.
Oui, parce que je crois que c'était en bonne analyse économique. C'était vrai. Ce n'était pas la vulgate habituelle, mais à force de parcourir le monde et d'analyser la situation des pays les uns après les autres, eh bien oui, on en vient à se rendre compte qu'un pays qui ne concentre pas ses efforts, parce qu'il s'agit de pays en développement, sur la réduction de la pauvreté, et aujourd'hui, je dirais peut-être même encore plus, sur la réduction des inégalités, manque sa cible. Aujourd'hui, enfin, il se trouve qu'il y a une histoire après cette histoire. Je travaille beaucoup avec Kofi Annan sur les problèmes de l'Afrique. Eh bien, et tous les ans, nous publions un rapport destiné aux chefs d'État du G7 et de l'Union africaine. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, nous avons essayé de montrer, et je crois prouver, que aujourd'hui, l'obstacle le plus lourd à un développement ordonné, humain de l'Afrique, un développement tout court en réalité, ce sont les inégalités croissantes. Et donc, il faut combattre ça. Ça recoupe tout à fait ce que vous venez de dire.
Pour qu'on situe un peu, j'aimerais bien que nous qui sommes des Béotiens, il faudrait peut-être réexpliquer l'origine du FMI, sa portée, son organisation et ce vers quoi vous, l'avez quand même aussi tiré et tiré une évolution déterminante.
Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, en deux mots, qu'est-ce que c'est que le FMI ? D'abord, il faut se situer en 44-45, plutôt en fin 44. Un certain nombre de grands économistes, d'anciens dirigeants des banques centrales ou des ministères de l'économie des grands pays alliés se réunissent plus ou moins informellement pour savoir que faire après, après la victoire. Et quelques-uns d'entre eux sont des personnages d'histoire bien repérés maintenant, Keynes par exemple, probablement le plus grand économiste du XXe siècle, mais aussi Pierre Mendès-France qui faisait partie de cette équipe-là. Et il y a un seul point qui les réunit véritablement, c'est « plus jamais ça ». Ça, c'était la manière désastreuse dont les grandes puissances à l'époque, c'était la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, ont réagi à la crise de 1929. Ils ont réagi par le protectionnisme, par le chacun pour soi. En fermant les frontières, en établissant des contingents lentement, tout ceci dans un climat d'hostilité croissante avec la montée du nazisme et du fascisme par ailleurs, d'où réarmement, d'où la guerre. Eh bien, plus jamais ça. Plus jamais ça, mais dans un monde détruit, des grandes puissances toutes ruinées, sauf les États-Unis, que faire ? Eh bien, il décide de faire ce qui se passait à la fin du XIXe siècle dans des paroisses d'Alsace ou de Vendée, où à la fin de la messe de 11 heures, on se réunissait dans la sacristie autour du curé pour gérer une cagnotte commune pour aider les gens de la paroisse qui ont des problèmes, des revers de fortune, ce que vous voudrez. L'idée... Et c'est ainsi, comme vous le savez certainement, qu'est né en France le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, qui sont devenus des grandes puissances financières mondiales. Aujourd'hui, on appelle ça du microcrédit. Eh bien, ils ont créé la Caisse de Crédit Mutuel du monde. Ils ont dit, chacun d'entre nous va apporter un peu de ce qu'il lui reste de réserves, d'or et de devises. On va mettre ça dans le pot commun. Il y aura un gestionnaire rigoureux qui fera ce qui se passait dans les caisses de crédit mutuel de nos campagnes, c'est-à-dire qu'on prêtera, mais on fixera des conditions. Parce qu'il faut que la personne à qui on prête se redresse, se rétablisse et puisse à son tour devenir un membre positif, créancier de la caisse commune. Eh bien, mes chers amis, le fonds monétaire, ce n'est que ça. Il a été créé comme ça, il a fonctionné comme ça. Alors, il a dû fonctionner pas mal. On a fini par décider que cette instance-là devait être en permanence en position de surveillance par rapport à tous les pays du monde, pour voir comment chacun gère bien ou mal ses affaires, adresser des injonctions à ce qu'ils se conduisent mal. Si celui qui se conduit mal va à la catastrophe, l'aider à se redresser en prêtant l'argent de la caisse commune à des conditions pour que ça puisse être remboursé. Alors, l'institution a traversé l'histoire du siècle, les différentes crises de la dette, quand la crise de la dette d'Amérique latine à la fin des années 70 est apparue, on s'est tourné vers lui pour trouver des solutions. Et petit à petit, l'habitude s'est prise de considérer que cette institution, que par ailleurs on déteste parce qu'elle fixe des conditions et parce qu'elle porte le message de la mauvaise nouvelle des mauvaises conduites, et chacun sait que l'on lapide le messager, n'est-ce pas, au fil de l'histoire. Eh bien, le Fonds monétaire est devenu l'institution vers laquelle on se tourne lorsqu'il y a un grand imprévu dans la sphère économique. Et 9 novembre 89, le mur de Berlin s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande au Fonds monétaire d'aller voir ce qui passe, d'aller voir ce qu'on peut faire, comment aider Walesa en Pologne, préparons-nous à ce que ça aille mal à Moscou, commençons à parler sans que ça se voit trop avec les dirigeants soviétiques, etc., etc. Et ceci à l'occasion de chaque crise. Et je crois que les dirigeants du Fonds monétaire international, en 2007, quand cette crise dont nous sortons avec peine s'est déclarée, ont eu à faire la même chose.
Et ensuite, vous avez voulu quand même, vous avez initié, enfin au fil des années, aussi des relations plus étroites avec la Banque mondiale.
Elles sont sœurs jumelles. À Bretton Woods, évidemment, je n'ai parlé que du Fonds monétaire international, mais en réalité, on crée à la fois le Fonds monétaire et la Banque mondiale, à l'époque s'appelant Banque pour la reconstruction et le développement. Il s'agissait de reconstruire l'Europe et tous les pays détruits par la guerre, et une fois que cette reconstruction achevée, de prêter et d'aider les pays en développement à essayer de croître. Et donc, entre les deux boutiques, évidemment, qui habitent des deux côtés de la 19e rue à Washington, il y a des relations de grande amitié, de rivalité et de concurrence de temps en temps. Mais je peux vous dire que l'amitié prévaut.
Durant ces 13 ans, de quoi avez-vous été, je dirais, avec vos collaborateurs? Parce que je ne vous dissocie pas. Vous voyez, ce que j'ai ressenti dans votre livre, c'est que rarement vous vous mettez en avant. Si, quand vous dites non, à des moments donnés, à des potentats, en train de dire « j'ai dit non et je refuse », vous savez le dire.
Oui, il faut.
Enfin,
c'est votre métier.
Mais vous ne vous mettez pas en avant. Mais de quoi avez-vous été au point de vue fier, au point de vue des réalisations de ce que vous êtes arrivé à faire avec l'ensemble de vos équipes?
Alors, si vous me dites que vous parlez des réalisations de l'institution et pas des miennes...
Oui, de l'institution.
Je vous dirai, enfin, j'essaye de refaire le parcours dans ma tête. D'abord, nous avons, je pense, contribué à trouver une solution à la crise de la dette dans les pays émergents, Argentine, Brésil, Venezuela, mais aussi pays de l'Europe de l'Est... Et là, il y avait un défi très, très grand quand je suis arrivé. Quand un pays était endetté et ne pouvait plus rembourser, l'habitude de la communauté internationale, à travers le Club de Paris, qui est une petite institution que préside la direction du Trésor du ministère des Finances et que je connaissais à ce titre-là, les créanciers publics, les gouvernements créanciers, se réunissent à la direction du Trésor à Paris. C'est une tradition. On fait confiance aux fonctionnaires des finances de la France. C'est d'ailleurs pas mal, ça. Et ceci aide à voir comment faire. Est-ce qu'on leur donne un délai de grâce de quelques années pour rembourser? On étale la dette et on le fait avec plus ou moins de générosité, suivant l'état du pays, sa richesse et la difficulté dans laquelle il se trouve. Et ceci a marché vaille que vaille pendant de nombreuses années. Puis, au début des années 80, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Et qu'il y avait des pays pour lesquels le problème n'était pas, comme disent les économistes, d'illiquidité, c'est-à-dire de difficultés passagères, mais de solvabilité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas payer. Et donc, la seule solution était non pas seulement de rééchelonner la dette, mais de la réduire, de dire qu'on fait le sacrifice de n'être remboursé qu'à moitié pour être remboursé un peu. Passer du rééchelonnement à la réduction, vous ne sauriez croire à quel point ça a été difficile. Le bon sens vous a amené à le reconnaître. Mais un banquier n'aime pas reconnaître qu'il a prêté et qu'il s'est trompé. Et donc, ça a été très très long, très très difficile. Mais il y a un jour où un responsable doit casser le morceau. Et après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup concerté avec les uns et les autres, j'ai un jour prononcé à Washington, devant un public de financiers et de personnages considérables, j'ai prononcé le mot pornographique. J'ai dit « il faut réduire la dette ». Alors, parmi la presse à ce moment-là, tout le monde attendait le monsieur qui dirait ce mot-là, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Je l'ai dit, c'était pornographique, je me suis fait injurier pendant quelques mois. 6 mois après, c'était le catéchisme. Parce qu'en effet, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire, et après tout, si en réduisant de moitié ou des trois quarts la dette, le pays repart, retrouve une prospérité, tout le monde s'y retrouvera. Première chose qu'on peut mettre au crédit du Fonds monétaire international, c'est ça. C'est d'avoir fait ça pour les pays émergents, en particulier l'Amérique latine. Puis après ça, il a fallu aller un pas plus loin pour les pays les plus pauvres. Pour les pays les plus pauvres, non seulement il fallait pardonner la dette, et on a été jusqu'à pardonner 100% de la dette des pays les plus pauvres, mais une fois désendettés, il fallait qu'ils puissent se développer. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas le faire par des prêts aux conditions ordinaires du marché. Il fallait soit des dons, soit des prêts à taux zéro. Alors le Fonds monétaire, on en parlera peut-être avec un souverain pontife,
oui,
le Fonds monétaire ne peut pas donner. Ce n'est pas inscrit dans ses statuts. Mais nous avons décidé, avec celui qui était à l'époque le directeur Afrique du Fonds monétaire international, qui s'appelle Alassane Ouattara et qui est maintenant président de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé ensemble de tenter notre chance et d'essayer de convaincre le monde de nous donner les moyens de prêter à taux zéro. On y est arrivé. Alors, je fais seulement la liste de ces résultats positifs. Derrière tout ça, il y a des tas d'anecdotes.
C'est un garçon remarquable.
Et il est tout à fait remarquable. Ouais. Et j'ai pour lui une admiration et une amitié fraternelle. Bien que je sache qu'il est, comme tous les gens remarquables, extrêmement critiqué partout. Mais oui, il fait du très, très bon travail. Et la Côte d'Ivoire croît depuis quelques années à 10 à 11% par an. Bien. Donc, voilà. La dette des pays très pauvres, les instruments pour le développement des pays très pauvres, et puis chute du mur de Berlin, il faut d'une part aider les pays d'Europe de l'Ouest, qu'on appelait autrefois les démocraties populaires, devenir des économies de marché. C'était leur désir, ce n'est pas nous autres qui leur avons imposé l'économie de marché. Ils ont pris tous les risques de la révolution pour y accéder, et là il y a évidemment j'ai la chance de rencontrer des acteurs prodigieux, voilà ça certainement, mais aussi Havel en Tchécoslovaquie, car c'était la Tchécoslovaquie à l'époque, et quelques autres. Ça a été un moment tout à fait important, et au bout de 5 ans à peu près, ces pays avaient entièrement retourné leur économie, qui était jusque-là totalement centrée sur le complexe militaro-industriel soviétique. Et ils avaient retourné vers le marché mondial et en particulier sur l'Ouest. Ce fut beaucoup plus difficile dans l'ancienne Union soviétique. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans un cas, les démocraties populaires, 40 ans avant, avaient connu l'économie de marché, et avaient encore les institutions et en tout cas les réflexes intellectuels de l'économie de marché. En Union soviétique, ça, il faut remonter à 70 ans en arrière. Et donc, rien n'était prêt. Il n'y avait aucune connaissance dans les sphères les plus sophistiquées de gouvernement de l'économie, des relations qu'il y a entre la monnaie, le crédit, les balances des paiements en économie de marché. Tout ceci était purement formel. La politique monétaire, c'était surtout des machines à imprimer des billets et pour le reste, ou à financer le trésor public. Bref, tout sauf une véritable politique monétaire. Et donc, il y a eu un énorme travail à faire pour aider ces 15 républiques à devenir des économies de marché. Et vous savez dans quel état elles sont encore. Certes, le choix a été fait, les instruments ont été mis en place, mais elles ont encore énormément de chemin à faire. Et nous en parlerons peut-être davantage. Je ne crois pas que l'Occident ait été tout à fait à la hauteur de ses responsabilités dans cette affaire. Nous y reviendrons. Mais ceci a été quand même une très grande tâche et je suis très heureux d'avoir eu à faire ce travail et de pouvoir dire, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, que les gens qui étaient avec moi ont travaillé pour relever ce défi. Mettez-vous à leur place. Ce sont des gens qui sont rentrés dans cette institution. Ce sont des gens extraordinairement bien formés. En général, ils ne sont pas extraordinairement nombreux. Ils ont une vocation de service public quand même. Sinon, ils seraient à Wall Street et gagneraient beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, le mur tombe et il leur est demandé d'aider ce bloc de l'Est. À aller vers une économie plus humaine avec toutes les chances, les risques que tout ceci comporte. Et ils se sont lancés dans ce travail avec une générosité et un courage formidable. C'était très très difficile, il fallait tout refaire, il fallait faire les comptes de départ. Aucune comptabilité sérieuse dans notre langage à nous n'était en place.
Trois. La comptabilité du parti, la comptabilité officielle et des comptabilités souvent écrites à la mine graphique.
Qui était probablement la seule qui soit sincère. Oui, voilà. Donc ça a été très difficile. Ça a été un très grand travail. Il a été fait. Et puis, je ne veux pas être trop long quand même sur ce chapitre positif, mais nous nous sommes rendus compte dans le courant des années 80. 10, que le 21e était déjà là, ou plutôt que les crises du 21e siècle étaient déjà là, la mondialisation était là, et nous avons vu un beau jour que le Mexique s'effondrait, il s'était déjà effondré une dizaine d'années auparavant, et ça avait 15 ans même, non, 15, oui, 14 ans auparavant, et ça avait marqué le début de la grande crise de la dette. Mais là, lorsqu'en décembre 1994, le peso s'effondre, on se rend compte que ce n'est plus du tout une crise comme avant. Pourquoi ? Parce que la mondialisation est passée par là. Et que maintenant, les créanciers du Mexique ne sont pas des banquiers repérés qu'on peut réunir autour d'une table en leur disant « Si vous voulez être payé, vous avez intérêt à coopérer au redressement de ce pays. » Là, ce sont les marchés. Et avec une rapidité de réaction et de contagion fulgurante, celle de la vitesse de la lumière en réalité. Le Mexique s'effondrant, la Tchécoslovaquie pouvait s'effondrer le lendemain. Et je pourrais vous dire par quel mécanisme ça pourrait se passer. Eh bien, nous avons dû, là aussi, improviser une réponse à ces nouvelles crises qui sont celles d'aujourd'hui. Et les instruments que nous avions ne correspondaient pas du tout à ce type de situation, et il nous a fallu inventer en prenant beaucoup de risques. J'ai eu l'honneur de diriger cette manœuvre, mais les pays européens qui avaient une certaine sympathie pour moi, qui avaient fini par m'élire en 1987, se sont abstenus sur les décisions d'aide au Mexique, ce qui, dans le langage du Fonds monétaire, est un vote entièrement négatif. Mais bon, il fallait le faire et le Mexique a été sauvé. Voilà, je crois que c'est assez sur le côté positif du bilan.
Oui.
Vous pouvez maintenant m'interroger sur le côté négatif, ça sera plus...
Allons-y, si vous voulez.
Certains voudraient peut-être que ce soit plus long. Non, je vais vous dire, il y a beaucoup... On se trompe toujours, tous les jours, 7 fois par le jour, et le juste 77 fois le jour, je crois. Bon, donc on se trompe souvent, même si on est une institution très sérieuse. Une chose que j'ai beaucoup regrettée, et je vais la dire dans un langage que je tiens de quelqu'un qui a été mon maître à beaucoup d'égards, qui est Jacques Delors. Jacques Delors, commentant son passage ô combien fructueux à la Commission européenne, a écrit un jour « Je voulais être architecte, je n'ai été que pompier ». Eh bien, je pourrais dire la même chose. Je crois que je devrais dire la même chose.
Je crois que vous étiez pompier.
J'ai été pompier. Un de mes amis me disait récemment que je me trompe quand je disais, quand je dis que nous avons été les pompiers des crises. Il était médecin, il m'a dit non, vous avez été des urgentistes. Bon, pompier ou urgentiste, comme vous voudrez, mais c'est quelqu'un qui règle un problème, qui met un pansement, qui permet à la personne blessée de marcher, peut-être avec des béquilles, mais de marcher.
Et souvent, en deux jours,
souvent,
quelques heures.
Ah oui, souvent, en effet, dans les crises financières, en particulier d'aujourd'hui, il faut la maîtriser dans les quelques heures qui suivent, sinon ça coûtera beaucoup plus cher à la collectivité. Mais voilà, le Fonds monétaire international a une autre vocation dans ces textes, qui est de veiller, et autant que possible, d'améliorer le système monétaire international. Et il en a créé un. Il en a créé un qui était un système fondé sur l'or et le dollar en 1945, au moment de la Caisse de Crédit Mutuel. Mais ce système-là s'est effondré lorsque, à la suite en particulier de la guerre du Vietnam, la position créditrice des États-Unis par rapport au système s'est progressivement détériorée. Le dollar a fini par devoir se dévaluer par rapport à l'or. Au début, c'était 35 dollars l'once. Il a dû accepter que ce soit 42, mais seulement pour quelques mois. Et puis, il a dit « je n'y arrive pas, toute la spéculation est contre moi ». Et il a fini par dire que le dollar n'est plus convertible et flottera librement sur les marchés. C'était la fin du système dit de Bretton Woods. À partir de ce moment-là, la mission du Fonds monétaire international était de faire en sorte, en réunissant les gouvernements, en proposant des idées, de faire en sorte que le système se redresse. Et des initiatives utiles ont été prises. On a par exemple considéré que puisque le dollar ne suffisait plus à assurer au monde les liquidités, les moyens de financement nécessaires pour suivre la croissance rapide de l'économie mondiale, eh bien on allait créer une monnaie, une super monnaie mondiale qui s'est appelée le droit de tirage spécial, qui, s'il est bien géré, assurerait l'équilibre entre ce que l'économie a besoin et les moyens de paiement disponibles. Ça a été créé pour ça. Mais les deux plus grandes puissances économiques du monde sont rentrées en traînant les pieds dans cette affaire parce que c'était une sorte de concurrence à leur propre devise. Et les Américains, mais un peu avec la complicité de nos amis allemands, je dois le dire, ont sabordé le droit de tirage spécial. Et on ne l'a utilisé que dans des circonstances absolument dramatiques. Par exemple, en 2009, tout d'un coup, on s'est dit, parce que le monde, il y avait un arrêt total de création des moyens de paiement dans le monde avec la crise. Eh bien voilà, on a dit, le Fonds monétaire international injecte 250 milliards de dollars. Il les crée de toutes pièces. Alors, ça a soulagé le système et le système est reparti. Mais à partir de là, on n'a pas été capable de vraiment construire ce système qui implique au fond que le Fonds monétaire international fonctionne en plus de ses tâches de surveillance et d'urgentisme, fonctionne aussi en pompe aspirante et foulante de financement, ajoutant des financements quand il n'y en a pas assez, en retirant quand on risque, à cause d'un excès de liquidité, des désordres ou de l'inflation. Eh bien, nous n'avons pas réussi à amener les grandes puissances à accepter de monter effectivement ce système. Je me suis débattu comme un diable dans un bénitier pour essayer de mettre ça en place. Les Américains m'ont fait l'honneur de refuser de voter pour moi quand il s'agissait de me renouveler mon mandat, je ne sais quelle autre occasion. En une autre circonstance, le Financial Times a annoncé que le chancelier de l'échiquier voulait me virer. Bref, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'y est pas arrivé. Et cette question qui avait été soulevée d'une manière particulièrement forte et audacieuse par le général de Gaulle, parlant dans les années 60 de l'exorbitant privilège du dollar qui peut payer les achats par l'Amérique de grandes entreprises ici ou là, ou des châteaux du Bordelais, ce privilège exorbitant subsiste aujourd'hui. Mais il est plus dangereux que jamais, parce qu'il n'y a jamais d'adéquation parfaite entre ce que les Américains injectent comme argent dans le système et ce que sont les besoins du système. Et puis surtout, et c'est là-dessus que je veux insister, parce que le monde change si radicalement que dans au maximum 10 ans, nous n'aurons plus un système dominé par le dollar, mais il y aura en face du dollar le renminbi chinois et probablement la monnaie indienne et enfin l'euro. Et il s'agira donc d'organiser un système multipolaire autour nécessairement d'une caisse commune jouant ce rôle que jusqu'ici le monde n'a pas réussi à se donner. Donc, j'aurais aimé mener cette tâche d'architecte jusqu'au bout. Je n'y suis pas parvenu, mais je crois qu'il aurait fallu une coalition de forces beaucoup plus grande que celle dont disposait le Fonds monétaire international pour y parvenir.
Mais ça reviendra immanquablement sur le tapis.
Il reste une seule question. Est-ce que ça reviendra après la crise prochaine ou avant ?
Avant.
Si on ne le fait pas si on n'organise pas ça dans les 4 ou 5 années qui viennent, vous aurez de nouveau la crise de 2007 en plus grave. L'histoire veut malheureusement que pour se réformer, le monde a besoin de crise. Dans la crise, il se réforme un peu. Passer la crise, il ne rêve que de revenir au vert pâturage d'avant. Toute la question aujourd'hui, devant le sérieux de cette affaire, est de savoir si nous serons assez sages pour réformer avant que la crise ne nous y oblige.
On parle peut-être un tout petit peu de l'Afrique quand même,
volontiers.
Parce que vous y consacrez quand même un chapitre assez important qui nous tient à cœur.
Oui. Je pense que vous parlez de la dévaluation du franc CFA.
Oui, qui est entre autres.
Le chapitre. Oui. Mais voilà, non, la crise. Pour situer notre travail vis-à-vis de l'Afrique, et là je dois dire que j'ai mis du mien. L'Afrique ne comptait pas dans les affaires du monde. Même encore, elle ne représente que 3% du produit intérieur brut mondial. 3%, cet immense continent, ce n'est que 3% de l'économie mondiale. Et donc la tendance est un petit peu à l'oublier. Et d'ailleurs, l'Afrique s'est tenue longtemps pour le continent oublié. Quand je suis arrivé à Washington, peut-être dois-je raconter cette anecdote, le secrétaire d'État des États-Unis, le secrétaire d'État, m'a invité à venir déjeuner avec lui. C'était George Shultz, un universitaire très, très réputé, très ami de quelqu'un que vous connaissez bien, qui était Raymond Barre. Et George Shultz donc m'invite au département d'État pour manger une omelette. Très vite, il me dit, écoutez, on vous a repéré, évidemment, quand vous avez été élu, on a cherché un peu à savoir ce qui vous fait courir. Et on sait très, très bien que pour vous, l'Afrique, c'est tout à fait important. Et c'est très important pour moi, en effet, parce que j'ai fait mon service militaire, comme un certain nombre d'entre vous, ici, pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai été saisi à ce moment-là par la misère de ces région des monts de Tlemcen où j'étais cantonné, où j'ai fait la guerre, et aussi par la qualité humaine des gens que j'ai rencontrés là, et par la nécessité de provoquer le développement. De quelque manière.
Schultz vous dit
de
quand même, manière. Vous aimez l'Afrique, vous êtes sensible à ces pays pauvres, on ne va pas vous le reprocher. Hein, et ne perdez pas votre temps. Hein, avec eux, pour pas grand-chose, et ils ne pèsent pas pour beaucoup dans les équilibres mondiaux. Laissez donc tout cela à la Banque mondiale.
Et
Et occupez-vous des grands sujets.
Non, et quoi encore?
Et il dit, nos déséquilibres budgétaires et extérieurs ici, la stabilité des changes, bref, le G10. Travaillez avec le G10 et prenez un peu de temps pour jouer au golf. Voilà.
Or, je n'avais jamais poussé de caddie dans ma vie, sauf au supermarché le samedi après-midi. Donc, il y a eu un très grand malentendu entre ce grand personnage et votre humble serviteur. Mais l'Afrique restait pour moi une passion à satisfaire et un problème à régler. Et j'ai eu la chance de trouver comme directeur pour l'Afrique Alassane Ouattara, qui est un remarquable économiste et par ce marché un homme de vision et de courage. Et donc nous nous sommes mis au travail et nous avons essayé d'abord de disposer de l'instrument qu'il fallait, ces prêts à taux zéro, conditionnés par des politiques plus fortes que celles qu'il menait jusque-là. Je te donne plus, mais tu fais plus. Nous avons essayé de convaincre les grands leaders de l'Afrique que ça valait la peine de jouer, d'essayer ça. Et après des hésitations de leur part, d'autant qu'il y avait une idéologie extrêmement dirigiste, ils rêvaient encore de planification un peu à la soviétique quand même, dans beaucoup de pays, quelques grands leaders comme Kenneth Kanda en Zambie, Nyerere en Tanzanie, ont compris qu'il fallait changer et... Ces nouvelles politiques de développement ont pu être mises en œuvre. Mais il y avait un problème énorme dans la zone francophone qui était que la parité fixe entre le franc français et le franc CFA était à un niveau beaucoup trop surévalué pour le CFA, si bien qu'ils ne pouvaient pas exporter leurs produits et qu'ils se ruinaient à acheter des biens de consommation qu'ils auraient pu produire, dans des proportions extravagantes. Et donc, il a fallu monter une opération extrêmement difficile, dans le plus grand secret, préparer ces 14 pays à dévaluer le même jour, au même moment, leur monnaie du même montant, en ayant dans leur soute, tout près, des programmes à mettre en œuvre dès le lendemain de cette opération pour que toutes les chances qu'elle comportait réussissent. Nous avons dû nous battre énormément parce que notre vieux pays, ici, était totalement hostile à cette affaire, soit qu'il considérait que les Africains ne seraient jamais capables de bien se gérer, qu'il faudrait continuer à les biberonner et que le taux de change n'avait pas d'importance, soit qu'il considérait que tout ceci allait créer beaucoup de grabuges, qu'on ne savait pas ce qu'il y aurait derrière. Bref, les principaux gouvernants français étaient résolument contre, jusqu'à ce que progressivement on arrive. Et ici, le président Mitterrand a été très lucide et a été probablement le premier à comprendre qu'il fallait passer par là. Et on a fini, un beau jour, dans le plus grand secret, à déclencher cette opération. Alors, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'il a fallu réunir tous ces chefs d'État africains à l'occasion d'une autre réunion sur un tout autre sujet, qui était l'avenir de l'Afrique. Et après deux jours et une longue nuit de négociations, l'affaire a été menée à bien. À partir de ce moment-là, tous ces pays d'Afrique francophone, qui pendant 15 ans s'étaient appauvris, année après année, par tête d'habitants, ont commencé à croître continuellement, sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, rien n'est parfait, la corruption est là, mais comme partout ailleurs, il y a toujours des affaires de clanisme, il y a encore beaucoup de guerres ou tribales ou liées à la balkanisation d'Afrique. Bref, tout ceci reste difficile, mais ces pays sont maintenant dans un processus de croissance que nous avons probablement, et grâce à la Banque mondiale en particulier, et à la coopération française dans beaucoup de domaines, essayé de rendre un peu plus humaine.
Alors parfois, vous avez un écueil, Mobutu. Ah. Alors, ça fait partie des surprises.
Oui, Mobutu, c'est bien connu. Je pense que c'est une expérience qui montre bien le type de travail que l'on faisait. Quand un pays est entre les mains d'un despote, le développement ne se produit que rarement très bien. Très vite d'ailleurs, l'entourage du despote met la main sur les richesses du pays, place les ressources dans des paradis artificiels ou plutôt fiscaux, et le pays s'appauvrit encore plus. C'était le cas du Zaïre, de Mobutu. Immense pays, immense ressources, mais Mobutu, qui était la plaque tournante de l'Afrique, et à un moment où le conflit Est-Ouest cherchait des champs clos, le Zaïre était devenu le quartier général des services secrets américains, en particulier en Afrique, et donc Mobutu se sentait à l'abri de la CIA et faisait donc ce qu'il voulait avec un fort sentiment d'impunité. Mais son économie était dans un état désastreux, et nous avons évidemment, le Fonds monétaire avait essayé par tous les moyens possibles d'essayer de le convaincre de changer de politique pour le bien de son peuple. Rien n'était possible, et donc nous ne pouvions plus que lui couper les vivres. Parce que quand le Fonds monétaire arrête de prêter, tous les autres financements disparaissent. Et donc j'ai eu à prendre cette décision de lui couper les vivres à Mobutu, mais avec le sentiment atroce que de savoir que ce n'était pas Mobutu qui allait en souffrir, mais son peuple, et les plus pauvres de son peuple. Et donc, il fallait trouver quelque chose. Alors, je l'ai rencontré. Ça s'est mal passé. Il m'a reproché de ne pas lui faire confiance. Il m'a dit que je le traitais comme si je faisais avec lui à l'égard de ma femme, c'est-à-dire chaque fois qu'elle veut aller au marché, l'empêcher d'aller au marché, ou ne pas trop lui donner d'argent de peur qu'elle le dépense. Bref, voilà le genre de conversation que j'avais avec Mobutu. Ça ne pouvait pas marcher. Et donc, je raconte dans ce livre, et je suis sensible au fait que vous ayez cité ce passage, nous nous sommes dit avec cette dame vers qui se tourner, qui pourrait toucher le cœur de Mobutu, lui faire comprendre que ça irait tellement mieux pour son bonheur personnel et pour son peuple, s'il s'en souciait un peu. Et alors nous avons consulté tout le monde, et personne, nous ne voyions pas de volontaire. Un beau jour, nous avons pris notre carnet d'adresses pour voir si on pouvait trouver une personne sage et prestigieuse qui irait lui parler.
Trait de génie.
Oui.
Et vous tombez sur Van Ypersele.
Alors, je tombe sur à la lettre. Alors, on voit A, B, C, D, on arrive. X, Y. Et à Y, nous trouvons deux ou trois noms qui commence par Y, dont un, Van Ypersele, qui était un de mes anciens camarades du comité monétaire de l'Union européenne, qui était devenu chef de cabinet du roi Baudouin. Cette dame ou moi, enfin je ne sais pas, nous disent voilà l'homme qu'il nous faut. Je prends mon téléphone, j'appelle M. Van Ypersele et je lui dis écoute, il faut que je voie le roi. Il faut que j'ai quelque chose de très très important à lui demander, et seul, il est seul à pouvoir répondre à ma question. Et elle, mais écoute, je lui demande, pousse la porte du roi. 5 minutes après, il revient me disant, écoute, viens, il te reçoit quand tu veux, demain, prends le premier avion ou celui d'après-demain. Et me voilà au château de Laeken, un soir de novembre. Vous voyez, Bruxelles en novembre, c'est tout gris. Ce château est tout gris. Il n'est pas meublé. Il y a dans une salle grise une belle table ancienne et 2 chaises. Et le roi Baudouin rentre, tout de gris habillé. ne riez pas, mais visiblement plus intimidé que moi. Et je lui dis, écoutez, sire, je ne vais pas vous faire de grand salam alek. Merci de ce que vous faites, ce que votre pays fait avec nous pour essayer de faire marcher les finances du monde. Mais je viens de vous demander quelque chose que tous les protocoles du monde m'interdiraient de demander à un chef d'État. Pourtant, je viens le faire. Je viens vous demander de parler au maréchal Mobutu comme un frère aîné parle à son jeune frère, pour lui demander de changer de comportement. Alors le roi qui était là avec un petit carnet et un crayon sur ses genoux, je vois que son visage se décompose un peu, mais pas. Il se reprend et il me dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Alors je dis, écoutez, voilà la situation. Il me dit, mais il faut que je lui demande de vendre ses châteaux à Bruxelles qui sont plus beaux, mieux meublés que les miens, de vendre ses avions. Non, il faut qu'on réfléchisse. Et pendant 2 heures, on a cherché à monter l'opération. Et plus on avançait dans la conversation, plus je sentais une sorte de complicité qui se créait. Et au point que j'ai compris que lorsque nous nous sommes quittés, qu'il ferait l'impossible. Et en effet, quelques mois après, mes collaborateurs sont venus. J'avais gardé ça pour moi, évidemment. Mes collaborateurs sont venus me voir, me disant, mais vous savez, je ne croirais pas, mais Mobutu est en train de changer. Au point qu'il faudrait peut-être qu'on voit, qu'on réouvre un peu la porte, qu'on mette quelques crédits pour voir si ça marche. Alors on a fait ça soigneusement, etc. Et ça a marché. Et pendant quelques temps, en effet, il y a eu une saison de relations harmonieuses. On a refait des crédits. Et puis, il y a eu rechute. Et là, c'est devenu très difficile. L'histoire serait longue. Je m'arrête là simplement pour vous dire que 13 ans après, je me suis trouvé à table auprès de la reine Fabiola. Et je lui ai, pour lui disant mon admiration pour son époux, je lui raconte cette chose qu'elle ne savait pas. Et elle me dit, vous m'éclairez, vous me faites comprendre quelque chose. Je me souviens en effet que nous avons donné un jour une grande réception au palais, parce qu'il y avait une quantité de chefs d'État qui étaient réunis à Bruxelles et le roi les recevait. Et un beau jour, et à un moment, j'ai vu le roi s'écarter de la foule, amener avec lui Mobutu dans une embrasure de fenêtre, et ils sont restés là à parler pendant 20 minutes. J'étais, me dit-elle, très gênée parce que tout le monde se demandait ce que complotaient ces deux-là qui n'étaient pas faits pour bavarder normalement ensemble. Et je comprends ce que faisait le roi. Ça ne m'étonne pas qu'il l'ait fait. Voilà, pour vous dire que le type de choses, de situations dans lesquelles on se trouve, il y en a eu d'autres. Celle qui a été pour moi la plus... là, je devance votre question, peut-être.
Oui, la galerie plus, des portraits.
La plus satisfaisante et dont je garderai toujours le souvenir, c'est la rencontre de Mandela, qui, lui, pour le coup, a été un très grand seigneur, d'abord par son allure, par sa distinction, par sa capacité à saisir les questions par le haut. Et nous avons pu beaucoup travailler ensemble. Nous nous sommes trouvés dans une position de pouvoir l'aider avant même qu'il ne soit au pouvoir et de mettre en place les financements nécessaires pour que l'Afrique du Sud et le Rand la monnaie d'Afrique du Sud ne s'effondre pas pendant la période de transition, ce qui était le grand risque. On risquait que la spéculation internationale, évidemment, se précipite sur ce pays pendant cette période politiquement instable. On a réussi à gérer ça et on aurait pu faire davantage ensemble, et nous l'avions décidé, s'il n'y avait pas eu une conspiration qui nous en empêche.
De la ANC.
Voilà. Non, il se trouve que avec Mandela, au cours de nos conversations, nous avions reconnu ensemble l'évidence, à savoir que l'Afrique du Sud était un pays divisé en deux, pas seulement racialement, mais surtout socialement. La majorité noire ayant un niveau de vie infiniment inférieur à la minorité blanche et à la minorité noire qui était elle-même qui avait trouvé le moyen d'avoir des positions économiques importantes. Et donc il fallait monter un programme qui sur quelques années, 5 à 7 ans, permettrait de réduire cet écart entre ces deux parties du pays. Moi j'avais décidé avec mes collaborateurs de mettre là-dessus le maximum de ressources possibles, à condition que le programme soit évidemment solide et bien dessiné avec les experts de la Banque mondiale. Tout était prêt. Mandela me reçoit pour un petit déjeuner chez lui, enchanté. Et bon, on a eu quelques détails à régler, on les règle en une minute ou deux, et on bavarde. Et puis on sort dans son jardin où il y avait quelques caméras de télévision et une bande de journalistes qui nous attendaient, et on annonce ça. Alors je sens quand même une petite réticence du côté de Mandela, qui préférait dire du bien du Fonds monétaire, de ce que nous avions fait avec lui, que de parler de ce formidable programme qui portait sur 7 milliards de dollars à l'époque, ce qui était à l'époque beaucoup compte tenu des circonstances. Et voilà, alors on annonce quand même quelque chose que le gouvernement devait annoncer le jour même, et Mandela, par courtoisie à l'égard du gouvernement ne voulait pas trop en parler à l'avance, mais ça devait être annoncé à midi, le soir, à midi il ne se passe rien, et le soir le ministre des Finances vient me voir et me dit voilà, ce programme ne sera pas mis en œuvre parce que la majorité du Parlement, qui est entre les mains de l'ANC, c'est-à-dire le grand parti issu de la résistance à l'apartheid, ne veut pas. Elle trouve que ça ressemble trop à l'Occident et nous n'avons pas envie de nous banaliser de cette manière, et donc on préfère ne pas faire le programme. En réalité, l'ANC dans cette affaire a été manipulée probablement par le président de Zimbabwe, Mugabe, qui lui non seulement détestait Mandela, mais appartenait encore à la vieille idéologie de la planification du type soviétique et de la fermeture sur les marchés, non seulement des capitaux, mais les échanges extérieurs ouverts, etc. Bref, le gouvernement donc a renoncé à appliquer ce programme et m'a demandé de ne pas montrer la cassette de cette conférence de presse qui m'avait été gentiment remise par un journaliste qui était devant Mandela. Et le ministre des Finances m'a dit voilà, nous avons instruit la presse, parce qu'à l'époque on instruisait encore la presse en Afrique du Sud, de ne pas diffuser cette cassette. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas publier la vôtre. Et j'ai répondu que je n'en ferai rien tant que ça risquerait d'embarrasser Mandela. Aujourd'hui, après la mort de Mandela, évidemment, je peux parler de cette cassette que je montrerai à mes amis quand ils le voudront.
Mais vous avez fait aussi des opérations. L'opération la plus importante, c'était celle de la Corée, non ?
De là ?
L'opération du fonds monétaire la plus importante, c'était pour la Corée.
Pour la Corée, oui, oui, oui.
C'était ça l'opération la plus importante que le fonds n'a jamais réalisée.
En financement, oui.
En financement.
Un peu plus importante que la seconde opération sur le Mexique. Ouais. Alors, c'était une de ces crises du 21e siècle à la fin du 20e. la Corée, qui s'était bien développée dans les années 80-90, s'était un peu laissée griser et avait, sans que personne n'en s'en rende compte et en prenant grand soin de cacher les chiffres, s'était beaucoup trop endettée. Et se retrouver, alors que la crise asiatique battait son plein, dans une situation extrêmement dangereuse, parce que les banquiers internationaux échaudés en Indonésie, en Thaïlande et à Hong Kong ne voulaient plus renouveler leur crédit. Et la Banque centrale de Corée avait imprudemment placé ses réserves de change pour gagner plus d'argent dans des filiales coréennes dans le reste du monde, si bien qu'elle n'avait plus de sous pour résister à la spéculation. Et c'est ainsi que tout d'un coup, nous nous sommes rendus compte que ce pays, dans lequel le monde entier avait la plus grande confiance, était sur le point de s'effondrer. Et nous avons dû négocier en l'espace de quelques jours un programme qui rétablissait des réserves de la Corée à un point tel que les spéculations n'avaient plus aucune chance contre elle. Mais pour ça, il fallait réunir plus de 50 milliards de dollars.
Et 55. Nous avons ça. 55.
55, oui.
Et en pleine période d'élection.
Et en pleine période d'élection. Alors, c'est là que c'est très intéressant, parce qu'il y a trois candidats qui se présentent. Les élections vont se passer dans 15 jours, mais au jour 3 ou au jour 2 après celui où nous négocions, normalement la Corée est en cessation de paiement et est en banqueroute. Donc il faut trouver une solution tout de suite. J'arrive là-bas et le président de la République, qui vivait ces derniers jours, me dit, mais voilà, nous allons signer tout de suite un papier, pas d'histoire, on ne peut pas laisser tomber la Corée. Voilà, si vous voulez, nous allons nous réunir devant les télévisions dans une heure ou deux, et on va signer un mémorandum, vous nous direz que vous mettez en place l'argent nécessaire. Je lui dis, monsieur le président, je ne vais pas faire ça, et quel que soit le respect que j'ai pour vous, je ne peux rien signer qui engage la Corée pour des montants aussi considérables, historiquement les plus élevés de l'histoire du Fonds monétaire, sans avoir l'accord des trois candidats, puisque l'un des trois aura à gérer ça. Alors, évidemment, vous imaginez la discussion qui suit, l'acidité des remarques de ce président, mais évidemment, je tiens bon, comment voulez-vous faire ? Et à un moment donné, il me dit, mais vous voulez leur accord, mais comment voulez-vous que j'aille les chercher? Ils sont en campagne dans le pays, je ne sais même pas où ils sont. J'ai dit, monsieur le président, vous ne le savez pas, mais vos services secrets le savent. Et vous avez certainement trois hélicoptères. Il faut que vous leur envoyiez un hélicoptère à chacun d'entre eux. Et que ce soir, puisque nous serons à la veille de ce qui serait normalement le défaut de votre pays, il faut que j'ai ce soir l'accord de ces trois personnages sur le programme que nous allons finir de négocier avec le ministre des Finances. L'homme est blanc de rage, mais finit par me dire d'accord. Et nous nous serrons la main et je ne le reverrai plus. Et je reçois, évidemment, un petit bout de papier de chacun des trois, et l'un d'entre eux, qui sera élu, le président Kim Dae-jung, me répond, non seulement j'appliquerai votre programme, mais je l'appliquerai à 120%, puisque voilà 30 ans que je me bats pour cela. À partir de là, vous avez, alors ça a été un peu compliqué après encore, mais à partir de là, vous avez la Corée d'aujourd'hui qui est devenue un des pays du groupe des 20 et une des locomotives du développement asiatique.
Et vous avez eu de très bonnes relations avec lui.
Ça a été un grand honneur pour moi de connaître cet homme et d'arriver à m'entendre si bien avec lui. Et je trouve que par-dessus le marché, il a bien mérité son prix Nobel de la paix, puisque il a fait l'impossible pour rétablir les liens avec la Corée du Nord. Et alors après ça, il y a eu toutes les hauts et bas que vous savez, mais des fils ont été noués, et je pense que un jour ou l'autre, ces deux pays seront réunis.
Dans la galerie des portraits, on parle de Madame Thatcher ?
Oui.
Vous avez eu un entretien quand même.
Non, je crois que j'ai beaucoup me suis amusé. J'ai eu en effet un long entretien avec Madame Thatcher et je me suis un peu amusé à écrire son portrait tel que je l'ai vu parce que j'avais en tête la description qu'en faisait le président Mitterrand. Disant d'elle que, et là, le sourire de Marilyn Monroe est le regard de Caligula. Et alors évidemment, quand vous rentrez dans le bureau d'une dame qui a le regard de Caligula, alors je vous dis tout de suite que elle n'avait pas le regard de Caligula parce que dans votre esprit comme dans le mien, Caligula est une brute imbécile ou quelque chose d'équivalent. Je crois qu'il adorait son cheval, quelque chose comme ça.
Oui.
Et donc non, elle avait un regard d'une extrême profondeur d'un certain côté, mais d'une autorité exceptionnelle. Et par fraction de seconde seulement, le sourire de Marilyn. Comment la chose s'est passée? J'étais à Londres. Alors elle me dit, alors vous êtes à Londres, mais vous savez, nous sommes les Tories sont au pouvoir. Et quand nous sommes au pouvoir, nous n'avons pas besoin, comme les socialistes, du Fonds monétaire international. Tout va très bien pour nous. Alors qu'est-ce que vous faites à Londres? Et je lui explique, naïveté. Je tombe dans le panneau tout de suite, dans la première minute. Je lui explique, voilà, nous avons compris qu'il faut régler le problème de la dette des pays du tiers-monde, qu'il faut réduire la dette des pays du tiers-monde et non plus seulement la rééchelonner. Les gouvernements et le sien ont accepté de le faire, mais il s'agit maintenant de convaincre les banquiers. Or, les banquiers se réunissent à Londres, c'est où se trouve le club de Londres, c'est le quartier général de la Banque internationale. Et, madame, je suis venu à Londres pour rencontrer le club de Londres et expliquer aux banquiers « Never lecture the bankers ». Vous n'êtes pas là pour donner des leçons aux banquiers. Les banquiers savent mieux que vous ce qu'ils doivent faire. Ne vous en mêlez pas. Et alors, elle continue. En réalité, c'était le néolibéralisme dans sa quintessence. Son grand ami Ronald Reagan disait que l'État n'est pas la solution, il est le problème. Les penseurs néolibéraux, Hayek, Friedman et autres, disaient que n'encombrons pas l'économie de préoccupations éthiques, de justice, surtout pas d'intervention publique. Tout ceci ne peut que fausser l'optimum économique et donc que l'État ne s'en mêle pas, que l'État n'agisse pas sur les acteurs économiques. Never lecture the bankers. Alors, évidemment, la discussion a été vive. Elle tenait bon, évidemment, ça, il n'y a aucun problème. J'ai tenu bon, c'était plus difficile. Et puis, alors, quand elle a senti qu'on était calés l'un l'autre, elle a changé de sujet et elle a commencé à faire défiler devant moi des tas de noms de chefs d'État. Mais tous les chefs d'État sont comme ça. Ils ne vous parlent pas d'un pays, mais ils vous parlent du gars qui gouverne le pays. Alors, elle me disait, d'abord, vous travaillez avec ce voyou de Mobutu, vous feriez mieux de mettre votre argent ailleurs. Alors, je lui explique qu'il y a des pauvres au Zaïre aussi et qu'il fallait s'occuper des pauvres de Zaïre. Et puis, voilà, toutes les galeries y passent. Elle me dit son grand souci en ce qui concerne les États-Unis, et à l'époque son grand souci c'est qu'il allait y avoir des élections aux États-Unis, que pour l'instant elle avait une très grande affection pour Ronald Reagan, mais ce qui la préoccupait c'est que Madame Reagan consultait les astrologues et les tireuses de cartes. Et elle craignait que ceci tourne mal et que Ron ne soit un jour influencé. Alors, et elle me dit, au fait, connaissez-vous Barbara Bush? Est-ce que Barbara aura un astrologue? Alors je lui expliquais que je connaissais un peu Bush, mais pas du tout Barbara, et que j'étais incapable de le dire si elle aurait un astrologue. Elle, un astrologue, était un peu dépité, mais enfin on a changé de sujet. Et voilà, mais enfin ça serait trop long si je vous disais toute l'histoire.
Non, mais vous trouverez des pages tout à fait croustillantes dans cet ouvrage. Malheureusement, maintenant, on est pris par le temps. On peut encore juste parler de Jean-Paul II, juste un moment.
Oui, volontiers.
C'est quand même une rencontre marquante pour vous.
C'est une rencontre marquante et c'est surtout un individu marquant. Mm. C'est lui qui a fait tomber le mur de Berlin, il faut être sérieux. En fait, on le sait bien. Enfin, il y a eu beaucoup de forces qui ont été mises en jeu, mais cet homme à main nue, comme on dit dans mon pays basque natal, a en effet précipité les choses, encouragé les forces de liberté, Solidarnosc en particulier, qui tire son nom d'un texte de Jean-Paul II, il ne faut pas l'oublier, et il a été essentiel dans cette affaire. Je l'avais rencontré, il avait demandé à me voir lorsque j'ai été nommé au Fonds Monétaire International, parce qu'il était très intéressé, il avait une vision systémique du monde. Et il avait repéré que le Fonds monétaire international avait par fonction une vision systémique. Et il avait envie de savoir comment nous nous y prenions pour essayer de mesurer les influences des pays les uns sur les autres, des plus grands sur les plus petits, toutes les asymétries dont parlait Pérou. Donc nous avions beaucoup, très agréablement discuté une première fois. Et puis la seconde fois, trois semaines avant que ne tombe le mur de Berlin, il me demande de passer le voir. Et il sentait que ça allait se produire. Il est probablement l'un de ceux qu'il a le plus précisément prévu. Alors il me reçoit très très agréablement et très vite il me dit voilà ma Pologne natale est en train de prendre sa liberté, le mur tombera, etc. Et je sais très bien qu'on va se tourner vers vous pour mener la manœuvre de l'Ouest de soutien à cette libération. Qu'allez-vous faire? Alors là aussi, un peu candidement, un peu comme chez Thatcher, je commence à dire, mais voilà, Saint-Père, voilà comment nous faisons des prêts. Il faut donner de l'argent à la Pologne. J'ai dit, Saint-Père, j'ai des statuts, j'ai des règles, et puis voilà comment ça se passe. Donner de l'argent à la Pologne. Vous êtes français, vous êtes français, vous et les Anglais. En 1939, vous nous avez laissé tomber. Et à cause de vous, pendant 40 ans, la Pologne a été sous un régime de matérialisme dialectique. La Pologne a failli perdre son âme. Vous devez expier, vous devez réparer. Je ne me voyais pas du tout aller tenir ce langage de l'expiation devant le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Et donc la discussion a été vive. À un moment donné, il m'a dit « Voyez, je m'emporte, mais c'est parce que vous êtes un ami. » Voilà, alors on a continué à parler. Il a évidemment très bien compris que nous ferions l'impossible à l'intérieur des contraintes que nous avions pour faire le maximum. Il m'a évidemment encouragé, il m'a demandé de lui faire savoir comment les choses avançaient, etc., ce que j'ai fait évidemment à travers le nonce apostolique à Washington. Et il se trouve, je ne raconte pas ça dans le livre, parce que c'était pendant que j'écrivais ce livre, ou un peu après que j'ai eu cette information, un peu comme avec la reine Fabiola pour Baudouin. Je suis J'ai rencontré par hasard un dîner et j'ai eu le plaisir d'être à côté de lui pendant une heure ou une heure et demie parce que le dîner était très long. Celui qui a été son conseiller laïque le plus proche, qui était son conseiller de presse, le docteur Navarro Valls. Alors on a bavardé et je lui ai dit que j'avais un petit peu connu son boss et qu'il s'était peut-être un peu emporté, et moi aussi dans notre conversation, il m'a dit « Ah mais écoutez, ne me la racontez pas, je la connais très très bien. Le pape me la racontait, il y est revenu plusieurs fois, il m'a souvent demandé de vos nouvelles. » J'ai dit « Mais pourquoi est-ce qu'il s'est emporté comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a... Il m'a dit « Mais écoutez... C'est parce que il voulait être sûr que vous feriez l'impossible. Il voulait vous pousser dans vos extrêmes retranchements. » Et à la fin de la conversation, croyez-moi, il avait le sentiment de l'avoir obtenu.
Bien, écoutez, je crois qu'on va devoir conclure et je vais vous laisser conclure ce que vous souhaiteriez nous transmettre encore comme message et de comment vous voyez les choses, comment est-ce que vous avez terminé ces 13 ans et ce que vous aimeriez nous transmettre.
Difficile en une minute ou deux.
Oui, c'est toujours très difficile.
Mais écoutez... Deux ou trois convictions. La première, c'est que nous vivons dans un monde qui se mondialise de plus en plus. Il faut que le monde ait des institutions mondiales à la hauteur des problèmes d'aujourd'hui. Jusqu'ici, face aux problèmes qui émergent, l'État-nation cherche à les traiter selon les vieilles doctrines westphaliennes, par la conjonction ou les accords au coup par coup de puissances souveraines. Or, les problèmes sont globaux. Et à des problèmes globaux, il faut apporter des réponses globales. Et il faut des institutions capables, d'abord, de discerner la dimension globale des problèmes, de proposer des stratégies contre ces problèmes, et d'en suivre l'application, quitte à tirer les sonnettes d'alarme quand ça ne va pas. Et donc, face à un monde qui se globalise, il me semble absolument essentiel, non seulement de faire vivre et de renforcer ces institutions, mais d'engager une grande réflexion mondiale sur une meilleure gouvernance mondiale. Les Nations Unies sont une très très belle institution, elles ont fait du très très bon travail avec les objectifs du millénaire par exemple, mais tout le monde sait que dès qu'il y a un veto de l'une des cinq grandes puissances, son action est paralysée. Il faut modifier tout ça, il faut donner à la communauté mondiale les instruments de son devenir. Et donc, il faut substituer à la vieille approche de l'État souverain, l'État-nation restera toujours le lieu de la démocratie. Et il est important que la démocratie s'exerce d'une manière souveraine, mais... Il est important aussi que les États-nations se dotent d'organisations mondiales capables d'apporter des réponses fortes à des problèmes contre lesquels aucun État, aussi puissant soit-il, n'a de réponse à lui tout seul. Donc, ma première conclusion, c'est en effet l'importance de revivifier tant que l'on le peut les organisations mondiales. J'aurais pu vous parler de l'Europe aussi, mais restons au plan mondial. Et puis, ayant beaucoup travaillé avec des chefs d'État reconstruisant leur pays, puisque c'est leur métier, j'ai eu souvent à me demander et à répondre à leurs questions sur le point de savoir quelles sont finalement les valeurs qu'il faut essayer de mettre à la base des constructions constitutionnelles fondamentales des pays. Et je me souviens de discussions en particulier là-dessus avec des hommes comme Havel et quelques hommes qui ont de réflexion. Et quand je fais la synthèse de toutes ces réponses que j'ai trouvées, que j'ai entendues sur les valeurs fondamentales à mettre en œuvre, j'en ai trouvé trois qui revenaient d'une manière ou de l'autre. Vous les avez citées tout à l'heure. La première, c'est la responsabilité. La responsabilité, Ricoeur disait que c'est le souci du fragile. Et puis la solidarité. La solidarité, il est évident que dans un monde qui se réunit de plus en plus, elle ne peut vivre que si on ajoute à l'efficacité du marché, aux régulations que les États peuvent apporter, que si on apporte, on ajoute cette dimension de la solidarité, parce que sans gratuité, sans quelque élément de gratuité dans la vie collective, ça ne marche pas, nous le savons très très bien. Et responsabilité et citoyenneté, pourquoi ? Parce que pour que les institutions vivent, il faut qu'il y ait derrière des citoyens et une opinion publique. Et il faut de plus en plus générer une sorte de citoyenneté mondiale, ou nous avons essayé de générer une citoyenneté européenne, une citoyenneté mondiale, pour que ces institutions mondiales soient poussées par une opinion publique et ne soient pas en quelque sorte déconnectées de la vie du monde. Mais si vous prenez ces trois valeurs-là, vous rendrez compte qu'en réalité, elles ont au-dessus d'elles une sorte de valeur suprême. Et cette valeur suprême, à mon avis, et c'est pas seulement parce qu'elle est dans la devise de la République française, c'est la fraternité. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est déjà fait. Si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée par les Nations Unies en décembre 1948, et à laquelle tous les pays du monde doivent adhérer s'ils veulent adhérer aux Nations Unies, vous avez à l'article 1er de cette déclaration, en chapeau de tous les droits qui sont alignés par la suite, il y a une magnifique description des droits économiques, sociaux et politiques dans cette déclaration, mais il y a un article 1er qui dit que tout homme, parce qu'il n'est homme, doit obéir à un devoir, un seul devoir, agir en toute chose dans un esprit de fraternité. C'est la reconnaissance que toute société humaine, en réalité, ne tient bon que parce qu'elle reconnaît qu'il y a cette fraternité fondamentale entre les hommes. Alors, j'ai cherché à savoir comment mon compatriote bayonnais, M. René Cassin, qui a écrit cette déclaration, a été trouver cette phrase. Je n'ai pas trouvé la réponse et je n'ai pas. Mais enfin, il y a des gens qui explorent, qui font des fouilles archéologiques dans les archives pour tâcher de comprendre ça. Moi, je suis chrétien. Quand on croit en Dieu Père, évidemment, la fraternité entre les hommes ne fait pas de problème. Mais on n'est pas obligé de le croire. Et en tout cas, il faut reconnaître que parce que nous sommes hommes et que nous avons signé la Charte des Nations Unies, nous avons accepté que la fraternité nous unisse et soit le ciment de toutes les constructions humaines. Il n'y a plus en permanence qu'à la requinquer.